massacré. Art Sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Dans le livre de la Genèse, l'histoire d'Adam et d'Ève passionne toujours autant les enfants du catéchisme. Les adultes, pour leur part, ont ancré en eux ce récit magnifique, mais néanmoins terrible, de la création d'Adam puis d'Ève, qui avaient tout pour être heureux et qui ont commis une erreur irrécupérable et fatale, désobéir à Dieu, leur créateur, et se laisser tenter par Satan. Le serpent, séduisant Ève, et Adam, qui n'a pas dit non, en leur susurrant des promesses tentantes, a su parvenir à ses fins. Condamner à jamais les humains à travailler la terre pour se nourrir et à filer la laine pour se vêtir, alors qu'il leur promettait d'être comme des dieux s'ils mangeaient le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette erreur fatale, c'est le péché originel, qui court sur le mur ouest de la cathédrale de Cahors et qu'a choisi mon invité de ce jour, Jeanne Tornel. Bonjour Jeanne.
Bonjour Marie-Madeleine.
Alors, chers auditeurs, si vous voulez retrouver l'image du péché originel de la cathédrale de Cahors, vous tapez « péché originel, cathédrale de Cahors » et vous devriez vous trouver en présence de l'image que nous allons commenter. La peinture murale, donc, qui se trouve au revers du massif ouest de la cathédrale de Cahors, date du début du XIVe siècle, avant 1320, et déroule la création du monde par Dieu sur trois de ses murs. Tiré du récit du premier livre de la Bible, la Genèse, cette représentation aurait été réalisée par un atelier local que le futur pape Jean XXII, Jacques d'Huez, cadurcien, aurait créé pour embellir la cathédrale et les églises de Cahors. Redécouverte seulement dans les années 1980, à l'occasion de la restauration du grand orgue, cette frise est un des joyaux majeurs de notre cathédrale. Alors, quel que soit l'artiste, Jeanne, il a très explicitement dessiné ce qui arrive à Adam et Ève.
Oui, là, vous avez un ensemble qui est quand même formidable, qu'on a la grande chance de pouvoir aller voir aussi souvent qu'on veut, et qui que j'ai choisi parce qu'il est sur place et parce qu'on ne le sait pas assez, cette fresque est formidable. Vous avez toute une histoire qui se déroule en bandeau, comme une bande dessinée. Toute la Genèse qui est dessinée et cet ensemble fonctionne par vignettes, comme dans une bande dessinée. Le style du dessin rappelle encore une fois la bande dessinée, ce qu'on appelle la ligne claire, c'est-à-dire que vous avez surtout les deux dimensions qui sont exprimées. Il y a assez peu de profondeur, il y en a un tout petit peu, mais il y a peu de jeu d'ombre et le tour de chaque forme, que ce soit des personnages, des animaux ou de la végétation, est cerné d'une ligne noire et relève l'ensemble par rapport au fond. Vous avez donc cette vignette qui représente l'instant même du péché originel. On est vraiment au moment du drame, dans l'intensité dramatique, où le serpent a fait son œuvre auprès d'Ève. Ève est en train de manger le fruit, elle a ce fruit dans la main, qui est un petit fruit rond, elle est en train de le porter à sa bouche, elle en a même peut-être déjà mangé un morceau. Adam, quant à lui, on ne sait pas s'il a déjà mangé son morceau, qu'il lui reste en travers du gosier,
oui.
Parce qu'il porte la main à son cou.
C'est ça.
Et donc, on a vraiment l'impression que c'est le moment où a été créée l'expression « la pomme d'Adam », parce qu'il porte la main à son cou, ça lui reste en travers, vraiment, cette histoire. Il se dit « mon Dieu, c'est trop tard, j'ai gaffé ». Donc, le tableau dans son ensemble représente très simplement Adam et Ève, de part et d'autre, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur lequel s'enroule en montant un immonde serpent, plutôt gros et gras comme un python, vert, avec des croisillons sur le corps, et la tête du serpent qui repose sur une branche. Ça, c'est très amusant. Grâce à vos ordinateurs, vous pourrez, ou vos téléphones, vous pourrez grossir et vous verrez qu'en fait, la tête repose vraiment sur une petite branche. Il a l'œil d'un côté et puis on voit sa bouche qui est un peu ronde, son museau qui dépasse derrière la branche qui est de l'autre côté. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que là, le serpent est délibérément tourné vers Adam. Il a déjà fait son œuvre auprès d'Ève et maintenant il surveille bien que Adam commette la faute lui aussi. Alors je vais me faire un peu l'avocat des causes désespérées, mais ce serpent, il a fait ce qu'on attendait de lui. On dit oui, c'est le malin, c'est l'incarnation du diable, c'est le mal, effectivement. Mais si la faute n'avait pas eu lieu, grâce au serpent, entre guillemets, grâce, toute l'histoire qui a suivi n'aurait pas eu lieu et Jésus ne serait pas venu parmi nous. Donc on peut se dire que, heureusement, que, il nous a fait commettre la faute du péché originel.
C'est un mal pour un bien.
C'est un mal pour un bien. Et à toute chose, malheur est bon. Cette créature, ce serpent, s'élève donc en s'enroulant autour du tronc de l'arbre, en passant autour des branches. L'arbre est assez simplifié. C'est un tronc rectiligne, brun-rouge, avec des branches assez simples et des bouquets de verdure. Il n'y a pas de détails de feuilles, même si la peinture est très abîmée. On peut, par comparaison avec les autres images, où on voit effectivement dans la vignette précédente, cet arbre qui est montré par Dieu à Adam et Ève en leur disant « celui-là, vous n'y touchez pas », où la peinture est beaucoup moins abîmée, on voit bien que c'est sur fond vert, il y a quelques petits traits qui donnent un peu de relief et on voit très bien les fruits de cet arbre qui sont ronds et bruns, plutôt bruns. Alors souvent on a dit la pomme, le fruit du péché. Alors on a dit la pomme parce que en italien on dit pomodore, donc on a souvent dit la pomme d'or, mais c'est une mauvaise traduction, peu importe. C'est un fruit auquel il ne fallait pas toucher, et donc la faute a été faite, quel que soit le fruit. Alors que pomodore, je le rappelle, c'est la tomate.
C'est la tomate, oui.
Et puis une tomate, ça ne pousse pas dans des arbres. Donc là, on est sur un fruit d'arbre. De toute façon, c'est celui qu'il ne fallait pas toucher, parce que après c'est l'arbre de vie et on se retrouverait l'égal de Dieu. Alors Adam et Ève sont traités d'une façon tout à fait médiévale. Hein. Cette peinture a été réalisée entre 1316 et 1324 à peu près. C'est une peinture à la détrempe, c'est-à-dire que les pigments, qui sont des pigments naturels à l'époque, ont été mélangés avec de l'eau et non pas avec du blanc d'œuf comme on peut le trouver sur d'autres œuvres. Donc, cette peinture a été réalisée dans les canons vraiment de l'époque médiévale. On retrouve tout à fait le traitement des visages, des corps et des chevelures qui sont d'usage à l'époque. Alors, Adam et Ève ont des corps assez similaires. Hein. Si on cachait le haut des corps, on a des représentations tout à fait semblables. On ne ferait pas tout à fait le distinguo entre un homme et une femme. La différence, c'est qu'on voit les seins d'Ève qui sont étonnamment traités parce qu'ils sont comme s'ils pendaient vers le bas. On voit le téton qui pend vers le bas, ce qui est un traitement étonnant. Mais bon, c'est comme ça. Et au niveau du sexe, ils ne sont pas sexués ni l'un ni l'autre.
Et non, ils ne l'étaient pas, puisqu'ils ne connaissaient pas le mâle.
Et voilà.
Voilà.
Et après, c'est sur la chevelure, évidemment, qu'on voit les différences.
Voilà.
Quoique, en faisant des rapprochements et en regardant les autres vignettes aussi, on voit bien que Ève a un regard plus doux que celui d'Adam. Adam a un regard, une attitude un peu plus masculine. Adam, on lui voit les côtes. On voit...
on a pour voulu, cause.
Voilà. Et on a voulu accentuer sa musculature aussi. Voilà. Faire de lui un homme par rapport à cette femme qui est sa compagne. Ils sont tous les deux blonds, avec des cheveux plutôt ondulés. Adam a cette coiffure typique de l'époque, avec les boucles qui retombent sous, enfin qui rebiquent sous les oreilles, cette coiffure ondulée. Ève a les cheveux coiffés de façon assez souple en arrière, en une grosse tresse. C'est très élégant, c'est tout à fait dans le style de l'époque. C'est à la fois simple et un peu maniéré dans les poses des jambes ou des bras, mais à la fois cette nudité qui les caractérise. On reconnaît tout de suite les personnages. Quand on voit deux personnages nus, un homme et une femme, on sait que c'est Adam et Ève. Le serpent au milieu, sur son arbre, coupe la scène en deux. Vraiment, il y a le côté avec Adam et le côté avec Ève. Il y a un petit détail que je vous souligne, c'est regarder les pieds des personnages. C'est assez amusant. Ils ont de grands pieds, mais on a bien marqué, l'artiste a bien marqué le talon, la voûte plantaire, les orteils. C'est détaillé, mais les pieds sont quand même assez impressionnants.
Ils sont bien sur terre.
Voilà, ils ont les pieds bien sur terre. Et au niveau des pieds, on note aussi que il donne un certain relief à la scène en débordant du cadre, puisque le sol est évoqué, mais Adam, le pied d'Adam, notamment son pied droit, dépasse sur le cadre ornementé, la frise qui entourait ces scènes de la Genèse, et ça donne un peu de profondeur à la situation. La vignette suivante, où un ange interdit à Adam et Ève de retourner dans le paradis en bloquant l'accès de la porte avec sa grande épée, vous verrez que les pieds de l'ange dépassent aussi du cadre. Dans certaines représentations de l'art byzantin, cet effet de mettre les pieds qui dépassent font que le personnage qui a les pieds le plus en avant ou qui dépasse du cadre est le personnage le plus important. Et vous avez d'ailleurs des scènes amusantes où on voit des personnages qui se marchent sur les pieds et on sent bien qu'il y a eu de la rivalité entre certains personnages, mais pas dans cette scène-là. Dans la scène où Adam donc est en train de déglutir, on pense qu'il est en train de déglutir, il a vraiment la main sur son cou, le coude levé, il est en train de se dire qu'il a fait une erreur, mais c'est trop tard. Le serpent vraiment profite de ce moment où il a réussi à faire trébucher l'homme et la femme. Ève est en train de se régaler de ce fruit qu'elle tient dans sa paume de main avec une certaine élégance. L'autre bras est replié plutôt contre la poitrine, mais sans en cacher la morphologie. Voilà, on est dans l'instant précis où la bêtise a été faite.
Oui, c'est trop tard.
C'est trop tard. Cet ensemble est vraiment remarquable. Je vous invite à prendre le temps de le regarder. Il y a quelquefois des visites du patrimoine où on peut les voir à hauteur, ce qui est impressionnant parce que quand on les regarde d'en bas, ils paraissent petits et peu clairs. Quand on les regarde à niveau, on se rend compte quand même que cette frise fait 2,25 m de haut, donc c'est plus grand qu'un homme. Et quand l'orgue a été restauré à la fin des années 80, en fait, on a détruit un plancher qui était derrière l'orgue et qui faisait une pièce où cette frise était pratiquement à hauteur d'homme. Et c'était très impressionnant. On avait cette salle dans laquelle on pénétrait par des portes latérales. On entrait dans cette salle et toute cette frise vous englobait complètement et vous assistiez à la Genèse, à la création, à toutes ces pages qui sont si merveilleuses. Je pense que c'est un de mes chapitres préférés de la Bible, c'est la Genèse. Et on est à la fois impressionné par ces corps. Alors vous avez Dieu, vous avez les anges, vous avez Moïse, vous avez tous ces personnages, Adam et Ève bien sûr, mais aussi par les couleurs. Parce que on est il y a 700 ans, 700 ans que ces peintures sont là, qu'elles ont été conservées miraculeusement. et qu'elle nous parle avec chaque scène qui a un fond de couleur différent. Tantôt bleu, tantôt jaune, tantôt rouge. Vous avez une alternance, il y a vraiment un désir de lecture de la gauche vers la droite avec chaque scène qui a son importance et qui est différente de la suivante. Même si elles se suivent, il y a une chronologie qui est indéniable. Et toutes ces scènes, vous pouvez les suivre sur un site qui est vraiment, que je vous cite, c'est pop.culture.gouv.fr. Vous avez quantité de photos, des restaurations, des travaux et de toutes ces peintures. Alors, avec un petit bémol, c'est que certaines photos sont à l'envers. Donc, ne vous faites pas attraper. Tantôt, vous verrez Adam à droite, tantôt, vous le verrez à gauche. Mais on ne peut pas nier quand même l'importance de ces photos sur lesquelles vous pouvez vraiment regarder beaucoup de détails. Regardez les regards, regardez la tête du serpent, regardez le fruit de l'arbre de la connaissance, regardez les côtes d'Adam et regardez chacune de ces vignettes. Vous verrez le soin qui a été apporté par cet artiste qui ne nous a pas laissé son nom, mais cette volonté d'offrir à ceux qui ne savaient pas lire, de pouvoir comprendre et entendre à leur façon, avec les yeux, toute cette histoire formidable de la Genèse, de la création du monde, de la création des éléments, des animaux, et tout ce décor merveilleux qui entoure cette frise, parce que vous avez des pointes, des flèches, des pointes de flèches blanches et noires, des bandeaux de couleurs, un pilier avec des cœurs, des rinceaux, de la végétation, des formes géométriques. C'est d'une richesse merveilleuse. Surtout, ne vous en lassez pas, ne vous lassez jamais d'aller visiter les monuments magnifiques qui nous entourent, et d'autant plus notre belle cathédrale de Cahors qui est si variée, qui offre tellement de styles différents. Et
oui,
cette peinture, ce témoignage fantastique.
Chaque siècle a mis sa patte dans notre cathédrale. Et là, c'est l'époque du gothique. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder dans les détails. Merci beaucoup, Jeanne Tornel, d'avoir participé à l'évocation du péché originel.
Avec plaisir.
Et qui est si bien dépeint, c'est vrai, à la cathédrale de Cahors. Nous avons cette chance, nous, les Cadurciens et les Lotois. Merci à Imanol qui a assuré la technique. Merci à vous tous, amis auditeurs, pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Présence Cahors, à la rubrique Les Arts Sacrés. À la semaine prochaine. Jusque-là, prenez soin de vous. Au revoir à tous.
Au revoir.
Art sacré, Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.